Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Lodève, Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. C'est l'heure de l'émission Territoire en mouvement et communauté de communes.com du côté de Radio Lodève. On est là pour notre première émission conjointe de l'année avec Damien Synthèse de Radio Lodève. Bonjour Damien.
Bonjour Maïva.
Et donc, comme c'est la tradition, j'ai l'impression, c'est donc la première émission en compagnie aujourd'hui de Jean-François Soto, président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Bonjour Monsieur Soto.
Bonjour à toutes et à tous et ravi de me trouver ici sur vos antennes.
Eh bien, nous sommes très ravis, nous aussi, avec Damien, de vous recevoir pour cette émission où on va revenir sur la nouvelle année qui débute et surtout les nouveaux projets qui vont s'enclencher, se continuer ou se terminer sur 2024. Mais avant de commencer cela, on vous propose de faire un petit bilan de l'année 2023. Comment s'est passé pour vous cette année en Vallée de l'Hérault ?
Eh bien, écoutez, de manière... continue dans le droit fil du projet de territoire que nous avions développé dès 2020, qui faisait état déjà de fondations qui avaient été posées en 2014-2020 sur le premier mandat. Et là, on est sur un projet de territoire qui anime un petit peu un certain nombre de choses. Donc l'idée pour nous, pour 2023, ça a été d'être dans une continuité tout à fait importante, dans le sens où on a mis en place, au travers aussi et en regard de ce qu'on veut projeter de 2024 à 2027, du jouet collectif, et on s'est servi de la base du sport, puisqu'on est au label Terre de Jeux JO 2024. Et donc on s'est dit, à travers notre cérémonie de vœux vidéo, qui a été largement suivie d'ailleurs, et je remercie l'ensemble des élus de la Vallée de l'Hérault d'avoir joué le jeu. Et donc aujourd'hui, en tous les cas, c'est cet état d'esprit qui nous permet en tous les cas d'envisager et de continuer pour répondre à la question un territoire en mouvement, dire combien les réalisations sont nombreuses. Ces réalisations, elles s'appuient sur plusieurs choses. La première, en s'appuyant sur la question de l'état d'esprit, des fonds de concours qui ont été mis en œuvre et qui nous ont permis justement aux communes de moins de 1000 habitants et des communes de plus de 1000 habitants de pouvoir toutes avoir déposé des dossiers qui nous ont fait faire des leviers et permis, par exemple sur le château de Tressan avec la médiathèque, par exemple sur des stations d'épuration, par exemple sur tous les dossiers un peu facilitateurs comme l'alternateur et autres, de permettre à toutes et à tous d'investir. Donc aujourd'hui, c'est de travailler avec tous nos partenaires, l'État, la région, le département, les communes bien entendu, puisque le socle de notre intercommunalité, c'est d'abord 28 communes et bientôt un peu plus de 42 000 habitants. Donc c'est de gros investissements qui sont faits, mais je voudrais quand même ne pas occulter tout le travail qui est fait en priorité sur l'eau et l'assainissement, puisque c'est vraiment un sujet de préoccupation et un sujet primordial pour la vie dans ce territoire.
Alors justement, l'eau et l'assainissement, Maëva y reviendra dans quelques minutes. C'est un de nos thèmes que l'on va aborder durant cette émission. Parmi les grands projets structurants, notamment, vous parlez de gros investissements, il y a tout un volet autour des mobilités, avec notamment sur votre commune de Gignac, un pôle d'échange multimodal, dont les travaux ont débuté en 2023. Donc on y reviendra déjà. Prenons des nouvelles sur les mobilités non loin de là, de la passerelle. C'est aussi l'actualité. On peut parler de cette passerelle. On en est où actuellement? Elle va être livrée cette année. Vous pouvez rappeler déjà le projet un peu? La passerelle qui enjambe la 750.
Oui, tout d'abord, le PEM sera livré, je pense, en tous les cas, sur la question au printemps 2024, sur la première tranche des travaux. Et l'ouverture en avril avec le transfert de la gare routière, car l'IO, qui nous permettra justement de faire ce transfert. Les montants sont conséquents, c'est 1,2 million d'euros en 2024 sur 2,8 millions d'euros. Au niveau du financement, c'est 37% de la région, 36% de l'État et 7% le département. mais c'est surtout pareil sur la passerelle qui verra, elle, le jour avec la fin des travaux au printemps 2024, opérationnel en juin. Et là aussi, c'est la moitié du financement sur 2,7 millions d'euros avec une pause stricte du bâti sur l'autoroute mi-mars. Donc là aussi, nous avons obtenu 73% d'aide de l'État et 7% de la région. Ce qui veut dire que à la fois sur le PEM et à la fois sur la passerelle, il y a 80% de financement, dont quasiment 70% chaque fois d'intervention de l'État, ce qui est remarquable, dans le cadre des plans verts.
Le PEM, donc le pôle d'échange multimodal basé au niveau du rond-point de Camalcé, pour faire simple, donc à l'entrée de Gignac, cette passerelle non loin de là dans la zone Cosmo. L'idée, c'est à travers ce pôle d'échange multimodal, finalement, faire un vrai carrefour dans cette entrée sud de Gignac pour mieux irriguer la vallée de l'Hérault, c'est ça ?
C'est créer du lien. En fait, c'est créer du lien. Vous avez employé le terme de mobilité douce, c'est un peu ça, c'est-à-dire permettre, avec les études du département et du pays cœur d'Hérault, de porter des liaisons qui vont nous permettre de faire des analyses précises et des outils vers Pouzol, Paupien, Saint-Bosile, presque dans l'axe de Bellarga. N'oublions pas qu'entre-temps, ça va alimenter le lycée Simone Veil, la halle des sports Gilles Fermont, la future unité des mobilités de gendarmerie, le centre de formation et de mise en situation du SDIS qui sera livré, je pense, en juin 2024. Là aussi, ça va être un sacré booster pour le territoire. Et puis après, le lycée agricole ainsi que la Calandretta et, bien entendu, la DMO concernant le département. Donc on voit bien qu'il va y avoir à la fois une plateforme au long cours de formation, d'éducation, de transmission, et donc il y aura aussi certainement l'installation d'un centre de tir. On n'oublie pas les énergies renouvelables, puisqu'il y a l'implantation l'année dernière du centre de photovoltaïque qui nous a permis de continuer à alimenter l'énergie verte et vertueuse pour la régie d'électricité Gignac Énergie. Donc voilà, on avance bien. Et donc l'axe de mobilité, cette passerelle et ce PEM, ça sera aussi avec le partenariat avec la métropole dans le contrat de réciprocité, les bus à haute qualité de service, et nous permettre aussi de continuer l'axe vers les gorges de l'Hérault, Agnan, Saint-Jean-de-Fosse, et puis gorges de l'Hérault, Saint-Guyen-le-Désert, mais aussi réfléchir pour faire avec le département un axe aussi doux vers Saint-André-de-Sangonis jusqu'à une connexion Gignac-Clermont-Lérault.
Alors avant de passer justement à la thématique eau, pour compléter cette thématique mobilité, 2024, c'est donc la fin de la première phase de ce pôle d'échange multimodal. Quelle sera la suite finalement ? Ça sera à moyen terme, à court terme ?
Déjà, ça nous permettra aussi de fixer à l'intérieur de ce PEM un transport à la demande aussi. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas les 28 communes et permettre à toutes et à tous de venir rejoindre les pôles de centralité pour ensuite pouvoir s'orienter soit vers l'ouest, soit vers l'est, soit vers le nord et le sud, bien entendu. Donc ça, c'est une grande avancée. Et en même temps, permettre à toutes les communes de pouvoir bénéficier de services, que ce soit l'accès à la culture, au sport, à l'éducation, au commerce, aux soins. Mais on y reviendra. Donc tout cela, c'est vraiment une entrée en matière qui nous permet en tous les cas d'avancer fortement. Mais je reviendrai toujours sur le fait qu'on a réussi, avec une ingénierie de qualité, à réussir à avoir des financements optimisés. Et je voudrais quand même saluer vraiment l'effort de l'État dans l'accompagnement qui a été fait sur cette réalisation.
Ben du coup, on va continuer avec cette thématique de l'eau qui est un enjeu majeur, hein, vous nous le disiez tout à l'heure, pour les collectivités. 2023 a été marqué notamment par la problématique ici à Saint-André. Du coup, est-ce que c'est la preuve qu'il faut accentuer les interconnexions entre les différentes communes ?
Moi, j'en suis intimement persuadé. Aujourd'hui, on ne peut plus s'amuser avec ce genre de choses. D'abord, ce qui s'est passé à Saint-André a démontré un petit peu la capacité de réactivité d'une intercommunalité. Et comme l'a dit le maire de Saint-André-de-Sangonis lors de ses vœux, il n'osait pas imaginer ce qu'il aurait fallu faire au niveau d'une commune seule face à ce type de phénomène, et aussi faire face aux investissements conséquents qu'il y avait. Donc une problématique d'ordre technique avec une intervention de l'ARS et qui a permis en 44 jours à l'intercommunalité, la régie de l'eau et de l'assainissement de pouvoir reconnecter et de mettre une usine de filtration digne de ce nom. Je rappelle que sur Saint-André-de-Saint-Gonis, nous avons refait le château d'eau de Saint-André aussi. Pas mal de réseaux aussi qui viennent compléter tout ce qui a été réalisé sur le territoire, sur les nouvelles steppes, que ce soit Montarnot, Agnan, Lagamas, Cabrials, Saint-Pargoire, Vendémian, et puis bien entendu les unités de déferrisation de Pouzol à travers un captage du Pouget.
Juste pour les auditeurs, un STEP, c'est station d'épuration.
Oui, exact, merci de le préciser. Voilà, c'est un renouvellement de 290 km de réseau qui sont faits, et puis que ce soit pour l'assainissement ou pour l'eau potable. Donc, c'est vraiment des montants importants, et je le dis aux personnes qui nous écoutent, le rendement moyen du réseau d'eau est passé de 61% en 2019 à 83% en 2022. Donc tout cela, c'est quelque chose qui est important. Si je prends le cas aussi de communes comme Peuchabon, le réseau de la traverse de Peuchabon, c'est aussi un travail, comme je l'ai qualifié, du chantier du siècle pour cette commune, parce que nous refaisons la totalité, comme nous avons entrepris de le faire et nous le faisons et nous l'avons fait sur Agnan, qui aussi, au travers de la construction de la steppe, comme Saint-Pargoire, étaient des communes qui étaient aussi dans des situations particulières au niveau de la station d'épuration et au niveau des réseaux. Sur Agnan, nous refaisons un grand nombre de réseaux qui en avaient bien, bien, bien besoin. Et donc, tout cela pour dire que depuis 2021, nous avons nos schémas directeurs de l'eau et l'assainissement qui planifient à 25 ans. En gros, c'est l'équivalent de 6 millions de travaux par an. 6 millions de travaux par an. Et quand on connaît la difficulté du monde du bâtiment, mais surtout des travaux publics, ou inversement, je reviendrai peut-être sur la crise agricole que nous traversons, mais dans nos territoires, tous ces sujets sont intimement liés. C'est-à-dire, c'est du travail, c'est de la rénovation de patrimoine, c'est du savoir-faire, c'est de la modernisation. Mais c'est aussi de la formation, de l'apprentissage. Ce sont des gens qui retournent à l'emploi, ce sont des gens qui maintiennent l'emploi et ce sont des TPE, PME qui investissent et qui font que nous le faisons avec beaucoup de conviction. Et je crois que le budget global de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, qui a été voté à l'unanimité le 12 décembre 2023, c'est 72 millions d'euros pour 42 000 habitants. Avec un PPI et un investissement de plus de 26 millions. J'ai parlé des 6 millions d'euros sur l'eau et l'assainissement, mais pas que. Il y a d'autres réalisations qui sont en cours, sans oublier les interconnexions, qui sont pour moi fondamentales. Ce serait, en termes de responsabilité, une erreur absolue de ne pas le faire. C'est pour ça que j'ai appelé l'autoroute de l'eau, et que c'est pour cette raison que nous avons déjà amené aussi de l'eau, indépendamment du captage actuel venant de l'Omède du Pouget vers Popian et Saint-Bosile de la Sylve qui étaient aussi en difficulté. Nous faisons la future interconnexion sur la question aussi de l'approche de l'eau vers Pouzol et comme nous l'avons fait de Gignac vers Agnan. Parce que toutes ces communes, s'il n'y avait pas eu ces connexions, aujourd'hui seraient en grande difficulté. Inversement, nous devons nous sécuriser dans tous les sens. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, on a amené de l'eau aussi vers le futur centre de formation et de mise en situation des pompiers, mais qu'il y aura aussi une petite réserve qui servira aux exercices et permettra aussi à gérer les risques incendies si le besoin s'en faisait sentir. N'oublions pas qu'en 2022, notre territoire a été victime de gros incendies et que l'ASA de Gignac aussi a permis de pouvoir être d'une utilité majeure. Donc tout cela va dans l'esprit vraiment de la réalité. Et pour revenir au PEM, la suite du PEM, le complément du PEM, c'est tout à fait autre chose, mais ça va dans l'esprit du cadre de vie de notre territoire. C'est l'installation d'une maison du tourisme et des mobilités qui sera la deuxième phase et qui permettra aussi à partir de 2025-26 d'avoir un lieu d'accueil, d'orientation vis-à-vis de nos grands sites de France, Saint-Guyen-le-Désert, Gorge de l'Hérault en particulier, mais pas que, Argiléum, Montpérou, enfin, etc., Gignac, le chemin de Croix, enfin, etc., etc., et puis aussi sur l'ensemble des orientations du pays Cœur d'Hérault.
Sur la thématique de l'eau, il y avait aussi la question de l'entretien des rivières avec la GEMAPI.
Oui, c'est aussi une nouvelle compétence qui nous a été transférée et qui fait qu'aujourd'hui, nous devons entretenir au travers de cette GEMAPI. Pour nous, le tarif, puisqu'il y a eu un besoin de service, nous l'avons maintenu à 8 euros par habitant concernant l'ensemble du territoire de la vallée de l'Hérault. Et c'est aujourd'hui un mal nécessaire, je dirais. Par contre, ce qui me préoccupe, c'est même plus une question de tarifs, de prix et autres. C'est que si on regarde aujourd'hui la température, le climat, c'est la problématique de la ressource. Et la ressource, il faudrait vraiment que nous en ayons, parce que ce soit toutes nos nappes ou que ce soit toutes les sources, quand on regarde bien, eh ben, tout diminue à une vitesse phénoménale. Quand on observe le fleuve Hérault, qui est moins touché que l'Orbe, mais globalement en tous les cas, lors de la visite du préfet, on avait fait un échange très fructueux avec l'entreprise Nereus sur la réutilisation des eaux. On est en train de regarder tout cela via les connexions possibles et l'ingénierie sur les stations d'épuration, mais plus largement et peut-être réutiliser aussi pour de l'arrosage au niveau du maraîchage ou des vignes. Il n'empêche qu'en complément des travaux qui sont réalisés par l'ASA et dans les économies qui ont été réalisées avec le goutte à goutte, mais globalement, en tous les cas, c'est aujourd'hui le problème du niveau de ressources est une vraie préoccupation.
Et on en parlait tout à l'heure hors émission, hein, mais c'est une vraie volonté de votre part d'informer les populations et de signifier que là, il faut vraiment qu'on est dans une phase assez dramatique quand même.
Oui, le terme est lâché, mais oui, nous nous inquiétons beaucoup pour affronter les périodes plus chaudes à venir. Il faut vraiment qu'il pleuve de manière régulière. On a eu dernièrement 40 à 50 millilitres qui sont tombés, millimètres, mais quelque part, ce n'est pas suffisant. Il nous en faut encore au moins 4 à 5 fois plus. Parce que n'oublions pas que ce n'est pas parce qu'il pleut que l'eau arrive en bas des nappes. Donc, il faut le temps que la surface fasse son absorbe et puis derrière que ça puisse s'infiltrer naturellement. Donc tout cela va dans l'esprit, mais là on ne peut pas faire grand chose, d'où le fait d'avoir des interconnexions et de travailler y compris dans les usages et dans les notions d'éducation, de prévention, et puis aussi accepter que l'eau, certes il faudra la partager, mais il faudra la partager y compris avec toutes sortes de possibilités. Et c'est pour ça que nous nous élevons un petit peu quand il y a des affrontements ou des gens qui cherchent à opposer telle catégorie à telle autre catégorie. Je crois que c'est un ensemble. Et n'oublions pas qu'on a besoin de tout le monde aujourd'hui pour maintenir quelque chose qui est formidable dans notre territoire, c'est-à-dire la beauté.
Une autre des thématiques que nous pouvons aborder, c'est une de vos compétences, c'est le développement économique avec vos zones économiques. Vous en êtes où pour débuter cette année 2024 en vallée de l'Hérault? Au niveau de vos zones économiques, est-ce qu'il reste encore des parcelles? Comment se porte l'économie sur ce territoire?
Tout d'abord, on est dans un cadre où, je le rappelle, le pays Cœur d'Hérault a voté son SCOT le 12 juillet 2023. C'est une date historique.
Et qui va contraindre de plus en plus.
Et qui définit un cadre général, à la fois pour l'accueil des populations, à la fois sur les domaines de l'activité, on va dire, du monde agricole, du domaine des loisirs, des mobilités, du tourisme et aussi, bien entendu, du développement économique. Alors, en ce qui concerne la vallée de l'Hérault, nous avons 9 parcs d'activités économiques qui sont gérés, avec potentiellement sur 2024 l'extension du PAE du Pouget, là où il y a d'ailleurs les Réus. Mais nous avons fait beaucoup d'aide au soutien des commerces, des entreprises, aux artisans, ne les oublions pas, aux agriculteurs. Depuis 2019, 38 aides aux entreprises sont versées dans 13 communes différentes, c'est-à-dire on essaye d'irriguer et une équité territoriale. Le tout pour quasiment 1 million d'euros. Un soutien continu à la filière viticole, qui s'exprime au travers notre concours des vins, qui a été créé en 1986. 1986, création en Vallée de l'Hérault du premier grand concours des vins. Je dis ça parce que c'est important de démontrer notre historique, notre ancienneté et notre savoir-faire sur celui-ci. Et on en est très fiers d'ailleurs parce que avec ce soutien, on a apporté, suite au gel aussi, la sécheresse en 2021, avec l'aide du département, et puis d'AgriPredict, et le soutien aux études sur l'irrigation. N'oublions pas que le département a voté un budget de 380 millions d'euros sur un projet irrigation. La Vallée de l'Hérault a aussi porté une étude pour les réserves potentielles, mais des réserves utiles, pas des réserves pour détruire, des réserves pour, au contraire, soutenir et être aussi des poches de sécurité. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas opposer, mais il y a une utilité pour toutes et tous, y compris dans la gestion des risques. Incendie, en l'occurrence. Et puis, aujourd'hui, je pense que c'est pour toutes ces raisons que, en ce qui me concerne, en tous les cas, je soutiens fermement le mouvement et le soutien au monde agricole.
Pour conclure ce volet autour du développement économique, vous avez la volonté de créer un hôtel du numérique. C'est quoi au juste ? Voilà, vous pouvez un peu nous expliquer ce projet ?
L'hôtel du numérique, mais permettez-moi d'abord de terminer. Moi, je voudrais dire que il y a tout ce qui peut toucher autour de l'économie, l'animation touristique. Il y a tous les métiers de la petite enfance et de la jeunesse sur lesquels on travaille. Il y a toute l'économie de la culture. Je ne sais pas si vous me poserez des questions là-dessus tout à l'heure. Et puis, bien entendu, il y a le plan local de l'habitat. On en est au troisième plan local de l'habitat. Là aussi, c'est de la rénovation patrimoniale, c'est du maintien de...
On y revient sur le logement et l'urbanisme.
De l'artisan, et puis donc c'est du savoir-faire. Donc, objectivement, aujourd'hui, on est là dans une situation où tout ce qui touche l'économie, pour nous, est quelque chose extrêmement important. Tout comme aussi, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, mais il y a d'autres interconnexions avec le Drac Caron, entre Montpérouse, Saint-Saturnin, qui vont être sécurisés. Et tout cela permettra aussi
donc juste
de donner du travail.
Pour conclure vraiment, l'hôtel du numérique, c'est...
L'alternateur est une vitrine pour nous, c'est un franc succès. Aujourd'hui, depuis qu'on l'installe, c'est aussi le tissu associatif, c'est aussi tout un lieu de vie, c'est aussi, grâce à cette intelligence collective, ça nous a permis aussi, dans les derrière de l'alternateur, d'avoir pu avoir un lieu de stockage de 363 000 bouteilles que nous avons distribuées lors de la problématique de Saint-André. Mais plus largement, l'alternateur, c'est un savoir-faire. Je crois qu'aujourd'hui, ça devient une vitrine. Et il y a très peu de tiers-lieux qui permettent ce genre de choses. Et quand je vois sur tous les niveaux, Animanga, la jeunesse, les associations, la requalification de produits issus de la récupération, les liens avec le lycée technique agricole, etc., etc., aujourd'hui, on est un peu en avance.
Quelques mots sur la santé. Il va y avoir en 2024 l'extension du pôle santé de Gignac et notamment l'accueil d'un nouveau scanner.
Absolument. Ça, pour moi, c'est fondamental. Un territoire, j'ai toujours dit depuis que je suis élu, un territoire qui ne s'occupe pas de son accès aux soins pour ses habitants est un territoire qui un jour souffre. Vous ne pouvez pas attirer des jeunes, des moins jeunes, si à un moment donné, il y a un déséquilibre face à ce phénomène d'accès aux soins. Donc, le territoire de la Vallée de l'Hérault, contrairement à nos voisins, n'avions pas ni d'hospitalisation publique, ni d'hospitalisation privée. Nous avions des professionnels de santé et paramédicaux qui étaient là et qui travaillaient comme ils le pouvaient avec l'historique qui va bien. Aujourd'hui, le pôle de santé, sur 2700 m², a permis à des professionnels de santé locaux et paramédicaux de s'installer, de devenir propriétaires, de travailler en synergie. Et à côté de ça, il y a eu un projet médical porté par Aesio Santé Méditerranée, qui a mis toute une politique de discipline de la viscéra, de la chirurgie viscérale, de l'urologie, de l'orthopédie, bientôt de l'ophtalmo, du dermato, de la gynéco, et de la médecine interne, etc., etc., qui viennent compléter cette offre, avec en complément, bien entendu, le laboratoire de biologie, etc., de l'optique, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est les plateaux techniques aujourd'hui. Et les plateaux techniques, demain, ça va être des radiologues qui vont pouvoir in situ faire, avec l'autorisation que nous avons obtenue, des scanners, ce qui va révolutionner notre territoire, avec aussi la possibilité de, pourquoi pas, du SDIS, de pouvoir faire des décharges et des mettre en place des consultations non programmées de 8h à 20h le soir, 7 jours sur 7, ce qui va renforcer toute cette unité. Et toujours dans l'équité territoriale. Je dirais que tout le monde essaye de combattre les déserts médicaux. Nous, à notre modeste place, on a agi dans le respect du tarif conventionné secteur 1, pour la plupart, pour ne pas dire à 95% des cas. Et en même temps, cela va nous permettre aussi de pouvoir peut-être apporter des solutions à des communes qui ont des cabinets médicaux et qui un jour auront besoin de renouveler leur population de professionnels de santé. Et donc, s'il y a des plateaux techniques à côté, je pense que le fait de travailler en staff, en liaison, d'avoir des internes, tout cela va aller dans le bon sens. J'en veux pour preuve pour les dentistes aussi, puisqu'il va y avoir aussi des cabinets d'orthodontie qui vont arriver et qui va aussi apporter un plus. Mais ça touche toutes les populations et qui plus est, nous recrutons sur ce pôle de santé, je dirais, tout le monde vient du département, voire même hors département, en particulier du Sud-Aveyron.
Alors pour bientôt arriver au terme de cette émission, on va quand même de manière assez rapide égrener quelques projets structurants, notamment envers les plus jeunes. Nous étions présents l'année dernière pour la signature avec l'IME de l'Ensoleillade d'un partenariat avec la piscine. Là aussi, c'est en 2024 qu'elle pourrait être utilisée par les écoles du territoire. Puis il y a aussi la volonté de débuter les études pour à terme avoir une nouvelle crèche sur votre commune de Gignac. Voilà, on peut rapidement aborder ce volet-là autour des plus jeunes.
Mais je dirais que c'est un partenariat de manière plus large. Pour compléter sur le pôle de santé qui touche aussi les plus jeunes, parce que la gynéco, tout ce qui est un petit peu pédopsie avec le CHU et autres, hein, tout ça, ça touche aussi des prises en charge et des parcours de vie. Mais c'est l'intelligence collective, c'est-à-dire une collectivité, la ville, la communauté de communes, mais aussi un bailleur social, FDI Group, et des porteurs de projets comme la mutualité, qui sont une troisième voie entre l'hospitalisation publique et l'hospitalisation privée. Et donc, pour revenir complètement sur la jeunesse, je dirais que, évidemment, oui, il va y avoir un besoin de complétude du niveau de nos crèches. Donc, il va y avoir aussi ce nouvel élan qui va être réalisé. Ça va être des budgets importants. Mais la piscine de l'IME, là, ça nous permet, nous, communauté de communes, d'agir à plusieurs niveaux. D'abord parce que pour Saint-André-de-Saint-Gonis et Gignac qui faisons partie du dispositif PVD, Petite Ville de Demain, et puis maintenant il y a des nouveaux dispositifs Village d'Avenir sur Montpérou et sur le Pouget. Globalement, ce qui est important pour nous, c'est que au travers de cette centralité, on puisse irriguer et permettre à toutes et à tous et que chacune de nos communes puisse bénéficier et de l'école de musique, et de pièces de théâtre au travers du théâtre populaire de la vallée de l'Hérault, et de soutenir les bénévoles des bibliothèques et médiathèques au travers, comme on le fait aussi avec le festival Mot-Parleur. Et puis, bien entendu, tout ce qui touche la musique et les musiques actuelles. Je parlais de l'école de musique et l'ensemble des festivals qui voient le jour et qui balayent et qui permettent, au travers de partenariats, en particulier avec le Sonambule sur les tout-petits, voire même les ados. Dernièrement, il y a eu, l'année dernière, on a fait 6 mois sur Anime Manga. Et cette année, on a fait un démarrage sur le breakdance qui a connu un franc succès. je crois que voilà, tout le spectre est là, mais que ce soit à Agnan, à Montarno, à Campagnan, à Saint-Pargoir, à Bellarga, ou à Gignac, ou à Vendémian, Saint-Bosile, le Paupial, la Boissière, Argeliès, tout le monde va y retrouver son compte, puisque Arboras, Lagamas, Montpérouse, Saint-Saturnin, Saint-Guiraud, Jonquière sont aussi partie prenante de tout cet élan qui font que aujourd'hui.
Saint-André de Saint-Gonis.
Saint-André de Saint-Gonis, j'y suis, puisque la radio, elle est ici à Saint-André, comme tout le monde le sait, depuis 1982. Je vous le rappelle. Donc, obligatoirement, on est là. On essaie de n'exclure et de n'oublier personne. Et puis, je n'occulte pas le rôle aussi de liaison que nous avons dans un axe vers la métropole avec Saint-Paul et Valmal.
Allez, deux, trois mots avant d'arriver à la fin de l'émission sur la problématique des déchets et plus particulièrement sur la poursuite de votre effort autour d'un nouveau système de collecte pour moins enfouir.
Ça aussi, c'est un challenge majeur pour tous les élus. Donc, on travaille au niveau du syndicat Centre-Hérault avec les deux autres communautés de communes. Mais l'objectif de la Vallée d'Hérault, nous sommes, je dois pouvoir le dire, un des meilleurs élèves avec 160 kilos par habitant. Et donc, notre objectif, c'est de descendre à 120 kilos, voire en dessous. Et donc, on fait un test aujourd'hui sur 11 communes du Sud, comme quoi on a vraiment cet axe-là. Et aujourd'hui, les premiers résultats, au travers du bac jaune qui a été déployé, pour représenter et couvrir 14 000 habitants, aujourd'hui, on va aller dans cet esprit-là. Et puis, progressivement, on fera le triptyque Gignac-Saint-André-Agnan. Et après, progressivement, on déploiera sur l'ensemble des communes. L'objectif étant que plus on trie, mieux on se porte, parce que, voilà. Mais je tiens à préciser aux auditeurs que toutes les taxes qui sont là nous sont imposées et elles prennent des proportions, mais ce sont des taxes sur lesquelles nous ne pouvons pas intervenir. Alors, bien entendu, ce nouveau système de ramassage crée un peu, de temps en temps, des incompréhensions, ce que je peux entendre, puisque avant, ça se faisait, mais avant, on faisait aussi un peu n'importe quoi, dans beaucoup d'endroits. Et aujourd'hui, certains peuvent encore bénéficier de ramassage devant la porte, oui, mais il y a des endroits, surtout dans les centres-villes, où c'est plus compliqué, mais on essaie de mettre en place des dispositifs pour que chacun puisse optimiser en tous les cas et donner des perspectives à cette planète.
Pour conclure, parlons donc de tout ce qui est volet logement, urbanisme. J'imagine que l'effort va se poursuivre. Vous avez mis en place Rénovissime, qui vient de redémarrer il y a quelques mois. Il y a aussi tous les dispositifs avec les labels de l'État, Petite Ville de Demain, notamment pour Saint-André de Saint-Gonis, pour Gignac. Il y a aussi tout cet effort finalement de réinvestir les cœurs de ville et de village.
C'est une priorité. Je pense qu'aujourd'hui, le plan local de l'habitat, comme je le disais, tout comme le respect de la biodiversité, avec notre atlas qui a été réalisé, et je remercie puisqu'on fait partie et on a la chance d'avoir une plateforme au travers du lycée agricole, tel que je le disais. Mais on travaille là-dessus. Il y a eu un recensement exceptionnel qui a été fait. Je voudrais saluer l'excellent travail de la vice-présidente Véronique Ney, qui d'ailleurs aussi se préoccupe, et en particulier la responsabilité au travers de Compost Plus, réseau national dont elle est la présidente, du travail avec les déchets. Donc on voit bien, nous, le lien qui est fait dans le portage politique et la volonté assumée avec le tissu environnemental et associatif, mais plus largement, tout ce qui revient des centres-villes, le PIG Rénovissime, quelque part, c'est des aides et des fonds de concours, comme je le disais, pour permettre la rénovation, l'entretien. Petite Ville de Demain et Bourg-Centre, c'est aussi des rénovations en centre-ville à Montarno, à Agnan, le presbytère de Saint-André de Saint-Gonis, des opérations façades. C'est tout ça. Donc c'est un travail aussi de formation et du boulot que l'on amène aussi pour les artisans. Donc aussi, ça empêche aussi et ça améliore la taxe carbone. Mais voilà, et là aussi, l'extension du parc d'activité Trois Fontaines, tout ce qui touche un petit peu à cela. On parlait tout à l'heure de l'hôtel du numérique, où il y a 1,1 million d'euros qui vont être aussi investis derrière le Fab Lab avec 700 mètres carrés de plus, qui vont compléter tous les efforts. Donc il y a des gens qui vont pouvoir s'installer, se tester et pouvoir après concrétiser derrière. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut faire, mais aujourd'hui, en tous les cas, la réalité, c'est que nous sommes une communauté de communes qui va de l'avant. Donc le titre de l'émission « Territoire en mouvement » me va parfaitement bien, et je dirais qu'elle le fait avec beaucoup de vélocité.
Bien, écoutez, je vous propose qu'on termine là-dessus, à moins que vous ayez, Jean-François Soto, un dernier mot pour les habitants et les habitantes de la vallée de l'Hérault.
Non, je voulais juste dire que l'effort qui a été réalisé sur des investissements comme la halle des sports Gilles Fermot a permis dernièrement d'accueillir un événement avec le MHB Istres qui est venu se délocaliser avec une salle comble. C'est le fruit de la récompense, en tous les cas, des investissements, et dire qu'en dehors de la métropole, on peut avoir aussi des lieux de très haut niveau et qui permettent d'accueillir des compétitions de niveau national, que ce soit pour le hand, le volley, le basket et autres. Donc ça, c'est intéressant. Que le terrain de tambourin, c'est aussi le respect de et qui va nous permettre cet été d'accueillir du 18 au 20 août des matchs de France-Italie, et donc redonner aussi, puisque c'est un patrimoine aussi auquel on est très attaché. Aujourd'hui, en complément de tout ce que j'ai dit, je pense que ce qui est important, c'est de rappeler quand même que dans un moment où le monde est totalement perturbé, je voudrais dire qu'en cette année olympique, l'universalité des relations humaines est plus qu'importante, et je ne voudrais pas quand même ne pas évoquer ce qui se passe au niveau drame humain, que ce soit en Ukraine, que ce soit à Gaza, que ce soit en Israël. Je pense que toutes ces valeurs, et partout dans le monde, il me semble que l'humain, c'est quand même la valeur la plus forte, et que notre territoire, on essaye de développer, en tous les cas, cet humanisme, mais c'est aussi cet universalisme des fonctions, des missions, et on espère en tous les cas cette mixité qui fait que, comme on a tendance à le dire, le vivre ensemble est au rendez-vous. C'est pas toujours évident, on essaye de ne pas être confronté, mais de ne pas se confronter, mais d'essayer de se parler, et la meilleure réponse, c'est l'installation des services publics de proximité avec l'aide des partenaires. L'État, la région, le département, et puis bien entendu les communes. Je crois que tant qu'il y aura aussi une relation directe, comme on le fait ici à Radio Pays d'Hérault, je voudrais vous féliciter pour les actions que vous menez et le travail incessant qui permet justement à relayer un petit peu tout ce qui est au plus près des habitants. C'est un petit peu ce que je décrivais avec la vélocité de la vallée de l'Hérault et la volonté d'agir et d'investir.
Et la présence, bien sûr, de Damien pour Radio Lodev.
C'est vrai que Radio Lodev aussi joue un rôle important, mais tout d'abord, en tous les cas, puisque je suis dans les locaux de RPH, même si je sais que vous travaillez main dans la main, évidemment, c'est plutôt à l'échelle du Pays Cœur d'Hérault, mais vous m'inviterez au titre de président du Pays Cœur d'Hérault.
Merci beaucoup Jean-François Soto. Donc je rappelle que vous êtes le président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Merci beaucoup Damien pour cette émission. Damien, synthèse de Radio Lodev. Donc c'était Territoire en mouvement sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud et communautédecommunes.com pour Radio Lodev. Je remercie Samuel à la technique et Gilles Cohen aussi qui nous aide beaucoup pour préparer toutes ces émissions tout au long de l'année. Merci Damien et puis à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup Maëva.
Et puis belle année 2024 à tous les habitants de la vallée de l'Hérault et du pays Cœur d'Hérault et aussi aux habitants de Gignac.